Troisième partie, chapitre 2. Une seule chose faillit compromettre mon plaisir pendant notre aventureuse randonnée, à cause de l'étonnement irrité où elle me jeta un instant. « Tu sais, j'ai raconté à Bloch, me dit Saint-Loup, que tu ne l'aimais pas du tout tant que ça, que tu lui trouvais des vulgarités. Voilà comme je suis, j'aime les situations tranchées. » Conclut-il d'un air satisfait et sur un ton qui n'admettait pas de réplique. J'étais stupéfait. Non seulement j'avais la confiance la plus absolue en Saint-Loup, en la loyauté de son amitié, et il l'avait trahi par ce qu'il avait dit à Bloch, mais il me semblait que de plus, il eût dû être empêché de le faire par ses défauts autant que par ses qualités, par cet extraordinaire acquis d'éducation qui pouvait pousser la politesse jusqu'à un certain manque de franchise. Son air triomphant était-il celui que nous prenons pour dissimuler quelque embarras en avouant une chose que nous savons que nous n'aurions pas dû faire? Traduisait-il de l'inconscience, de la bêtise, érigeant en vertu un défaut que je ne lui connaissais pas? Un accès de mauvaise humeur passagère contre moi, le poussant à me quitter, ou l'enregistrement d'un accès de mauvaise humeur passagère vis-à-vis de Bloch, à qui il avait voulu dire quelque chose de désagréable, même en me compromettant? Du reste, sa figure était stigmatisée pendant qu'il me disait ces paroles vulgaires, par une affreuse sinuosité que je ne lui ai vue qu'une fois ou deux dans la vie, et qui, suivant d'abord à peu près le milieu de la figure, une fois arrivée aux lèvres, les tordait, leur donnait une expression hideuse de bassesse, presque de bestialité toute passagère et sans doute ancestrale. Il devait y avoir dans ces moments-là, qui sans doute ne revenaient qu'une fois tous les deux ans, éclipse partielle de son propre moi, par le passage sur lui de la personnalité d'un aïeul qui s'y reflétait. Tout autant que l'air de satisfaction de Robert, ses paroles « j'aime les situations tranchées » prêtaient au même doute et auraient dû encourir le même blâme. Je voulais lui dire que si l'on aime les situations tranchées, il faut avoir de ces accès de franchise en ce qui vous concerne et ne point faire de trop faciles vertus aux dépens des autres. Mais déjà, la voiture s'était arrêtée devant le restaurant, dont la vaste façade vitrée et flamboyante arrivait seule à percer l'obscurité. Le brouillard lui-même, par les clartés confortables de l'intérieur, semblait jusque sur le trottoir même vous indiquer l'entrée, avec la joie de ses valets qui reflètent les dispositions du maître. Il s'irisait des nuances les plus délicates et montrait l'entrée comme la colonne lumineuse qui guida les Hébreux. Il y en avait d'ailleurs beaucoup dans la clientèle, car c'était dans ce restaurant que Bloch et ses amis étaient venus longtemps. Ivres d'un jeûne aussi affamant que le jeûne rituel, lequel du moins n'a lieu qu'une fois par an, de café et de curiosité politique, se retrouvaient le soir. Toute excitation mentale donnant une valeur qui prime, une qualité supérieure aux habitudes qui s'y rattachent, il n'y a pas de goût un peu vif qui ne compose ainsi autour de lui une société qui l'unit et où la considération des autres membres est celle que chacun recherche principalement dans la vie. Ici, fût-ce dans une petite ville de province, vous trouverez des passionnés de musique. Le meilleur de leur temps, le plus clair de leur argent, se passe aux séances de musique de chambre, aux réunions où on cause musique, aux cafés où l'on se retrouve entre amateurs et où on coudoie les musiciens de l'orchestre. D'autres, épris d'aviation, tiennent à être bien vus du vieux garçon du bar vitré penché en haut de l'aérodrome. À l'abri du vent, comme dans la cage en verre d'un phare, il pourra suivre, en compagnie d'un aviateur qui ne vole pas en ce moment, les évolutions d'un pilote exécutant des loopings, tandis qu'un autre, invisible l'instant d'avant, vient atterrir brusquement, s'abattre avec le grand bruit d'ailes de l'oiseau roc. La petite coterie qui se retrouvait pour tâcher de perpétuer, d'approfondir les émotions fugitives du procès Zola, attachait de même une grande importance à ce café. Mais elle y était mal vue des jeunes nobles qui formaient l'autre partie de la clientèle et avaient adopté une seconde salle du café, séparée de l'autre seulement par un léger parapet décoré de verdure. Ils considéraient Dreyfus et ses partisans comme des traîtres, bien que 25 ans plus tard, les idées ayant eu le temps de se classer et le dreyfusisme de prendre dans l'histoire une certaine élégance, les fils, bolchévisants et valseurs, de ces mêmes jeunes nobles, dussent déclarer aux intellectuels qui les interrogeaient que, sûrement, s'ils avaient vécu en ce temps-là, ils eussent été pour Dreyfus, sans trop savoir beaucoup plus ce qu'avait été l'affaire que la comtesse Edmond de Pourtalès ou la marquise de Galifet, autre splendeur déjà éteinte au jour de leur naissance. Car, le soir du brouillard, les nobles du café, qui devaient être plus tard les pères de ces jeunes intellectuels rétrospectivement dreyfusards, étaient encore garçons. Certes, un riche mariage était envisagé par les familles de tous, mais n'était encore réalisé pour aucun. Encore virtuel, il se contentait, ce riche mariage désiré à la fois par plusieurs, il y avait bien plusieurs riches parties en vue, mais enfin le nombre des fortes dotes était beaucoup moindre que le nombre des aspirants. De mettre entre ces jeunes gens quelques rivalités. Le malheur voulut pour moi que, Saint-Loup étant resté quelques minutes à s'adresser au cocher, afin qu'il revînt nous prendre après avoir dîné, il me fallut entrer seul. Or, pour commencer, une fois engagé dans la porte tournante dont je n'avais pas l'habitude, je crus que je ne pourrais pas arriver à en sortir. Disons en passant, pour les amateurs d'un vocabulaire plus précis, que cette porte tambour, malgré ses apparences pacifiques, s'appelle porte revolver, de l'anglais revolving door. Ce soir-là, le patron, n'osant pas se mouiller en allant dehors ni quitter ses clients, restait cependant près de l'entrée pour avoir le plaisir d'entendre les joyeuses doléances des arrivants, tout illuminées par la satisfaction de Jean qui avait eu du mal à arriver et la crainte de se perdre. Pourtant, la rieuse cordialité de son accueil fut dissipée par la vue d'un inconnu qui ne savait pas se dégager des volants de verre. Cette marque flagrante d'ignorance lui fit froncer le sourcil comme à un examinateur qui a bonne envie de ne pas prononcer le « dignus est intrare ». Pour comble de malchance, j'allais m'asseoir dans la salle réservée à l'aristocratie, d'où il vint rudement me tirer, en m'indiquant, avec une grossièreté à laquelle se conformèrent immédiatement tous les garçons, une place dans l'autre salle. Elle me plut d'autant moins que la banquette où elle se trouvait était déjà pleine de monde, et que j'avais en face de moi la porte réservée aux Hébreux qui, non tournante celle-là, s'ouvrant et se fermant à chaque instant, m'envoyait un froid horrible. Mais le patron m'en refusa une autre en me disant « Non, monsieur, je ne peux pas gêner tout le monde pour vous. » Il oublia d'ailleurs bientôt le dîneur tardif et gênant que j'étais, captivé qu'il était par l'arrivée de chaque nouveau venu, qui, avant de demander son boc, son aile de poulet froid ou son grog, l'heure du dîner était depuis longtemps passée, devait, comme dans les vieux romans, payer son écho en disant son aventure au moment où il pénétrait dans cet asile de chaleur et de sécurité, où le contraste avec ce à quoi on avait échappé faisait régner la gaieté et la camaraderie qui plaisantent de concert devant le feu d'un bivouac. L'un racontait que sa voiture, se croyant arrivée au pont de la Concorde, avait fait 3 fois le tour des Invalides. Un autre, que la sienne, essayant de descendre l'avenue des Champs-Élysées, était entrée dans un massif du rond-point, d'où elle avait mis 3 quarts d'heure à sortir. Puis suivaient des lamentations sur le brouillard, sur le froid, sur le silence de mort des rues, qui étaient dites et écoutées de l'air exceptionnellement joyeux qu'expliquait la douce atmosphère de la salle, où, excepté à ma place, il faisait chaud. La vive lumière, qui faisait cligner les yeux, déjà habitués à ne pas voir, et le bruit des causeries, qui rendaient aux oreilles leur activité. Les arrivants avaient peine à garder le silence. La singularité des péripéties, qu'ils croyaient uniques, leur brûlait la langue, et ils cherchaient des yeux quelqu'un avec qui engager la conversation. Le patron lui-même perdait le sentiment des distances. « Monsieur le prince de Foix s'est perdu 3 fois en venant de la porte Saint-Martin. » Ne craignait-il pas de dire en riant, non sans désigner, comme dans une présentation, le célèbre aristocrate à un avocat israélite, qui, tout autre jour, eût été séparé de lui par une barrière bien plus difficile à franchir que la baie ornée de verdure. « 3 fois, voyez-vous ça ?» dit l'avocat en touchant son chapeau. Le prince ne goûta pas la phrase de rapprochement. Il faisait partie d'un groupe aristocratique pour qui l'exercice de l'impertinence, même à l'égard de la noblesse, quand elle n'était pas de tout premier rang, semblait être la seule occupation. Ne pas répondre à un salut, si l'homme poli récidivait, ricaner d'un air narquois, ou rejeter la tête en arrière d'un air furieux. Faire semblant de ne pas connaître un homme âgé qui leur aurait rendu service. Réserver leur poignée de main et leur salut au duc et aux amis tout à fait intimes des ducs que ceux-ci leur présentaient. Telle était l'attitude de ces jeunes gens, et en particulier du prince de Foix. Une telle attitude était favorisée par le désordre de la prime jeunesse, où, même dans la bourgeoisie, on paraît ingrat et on se montre mufle parce qu'ayant oublié pendant des mois d'écrire à un bienfaiteur qui vient de perdre sa femme, ensuite on ne le salue plus pour simplifier. Mais elle était surtout inspirée par un snobisme de caste suraigu. Il est vrai que, à l'instar de certaines affections nerveuses dont les manifestations s'atténuent dans l'âge mûr, ce snobisme devait généralement cesser de se traduire d'une façon aussi hostile chez ceux qui avaient été de si insupportables jeunes gens. La jeunesse, une fois passée, il est rare qu'on reste confiné dans l'insolence. On avait cru qu'elle seule existait. On découvre tout d'un coup, si prince qu'on soit, qu'il y a aussi la musique, la littérature, voire la députation. L'ordre des valeurs humaines s'en trouvera modifié, et on entre en conversation avec les gens qu'on foudroyait du regard autrefois. Bonne chance à ceux de ces gens-là qui ont eu la patience d'attendre, et de qui le caractère est assez bien fait, si l'on doit ainsi dire, pour qu'ils éprouvent du plaisir à recevoir, vers la quarantaine, la bonne grâce et l'accueil qu'on leur avait sèchement refusé à 20 ans. À propos du prince de Foix, il convient de dire, puisque l'occasion s'en présente, qu'il appartient à une coterie de 12 à 15 jeunes gens et à un groupe plus restreint de 4. La coterie de 12 à 15 avait cette caractéristique, à laquelle échappait, je crois, le prince, que ces jeunes gens présentaient chacun un double aspect. Pourris de dettes, ils semblaient des rien du tout aux yeux de leurs fournisseurs, malgré tout le plaisir que ceux-ci avaient à leur dire « Monsieur le comte, monsieur le marquis, monsieur le duc ». Ils espéraient se tirer d'affaire au moyen du fameux « riche mariage », dit encore « gros sac », et comme les grosses dots qu'il convoitait n'étaient qu'au nombre de 4 ou 5, plusieurs dressaient sourdement leur batterie pour la même fiancée. Et le secret était si bien gardé que, quand l'un d'eux venant au café disait « Mes excellents bons, je vous aime trop pour ne pas vous annoncer mes fiançailles avec Mademoiselle d'Ambresac », plusieurs exclamations retentissaient. Nombre d'entre eux, croyant déjà la chose faite pour eux-mêmes avec elle, n'ayant pas le sang-froid nécessaire pour étouffer au premier moment le cri de leur rage et de leur stupéfaction. « Alors, ça te fait plaisir de te marier, Bibi ?» ne pouvait s'empêcher de s'exclamer le prince de Châtellerault, qui laissait tomber sa fourchette d'étonnement et de désespoir, car il avait cru que les mêmes fiançailles de Mademoiselle d'Ambresac allaient bientôt être rendues publiques, mais avec lui, Châtellerault. Et pourtant, Dieu sait tout ce que son père avait adroitement compté aux Ambresac contre la mère de Bibi. « Alors, ça t'amuse de te marier ?» ne pouvait-il s'empêcher de demander une seconde fois à Bibi, lequel, mieux préparé puisqu'il avait eu tout le temps de choisir son attitude, depuis que c'était presque officiel, répondait en souriant « Je suis content, non pas de me marier, ce dont je n'avais guère envie, mais d'épouser Daisy d'Ambresac, que je trouve délicieuse. » Le temps qu'avait duré cette réponse, monsieur de Châtellerault s'était ressaisi. Mais il songeait qu'il fallait au plus vite faire volte-face en direction de Mademoiselle de la Canourque ou de Miss Foster, les grands partis numéro 2 et numéro 3. Demander patience aux créanciers qui attendaient le mariage Ambresac et enfin expliquer aux gens auxquels il avait dit aussi que Mademoiselle d'Ambresac était charmante, que ce mariage était bon pour Bibi, mais que lui se serait brouillé avec toute sa famille s'il l'avait épousée. Madame de Soléon avait été, allait-il prétendre, jusqu'à dire qu'elle ne les recevrait pas. Mais si, aux yeux des fournisseurs, patrons de restaurants, etc., ils semblaient des gens de peu, en revanche, être doubles, dès qu'ils se trouvaient dans le monde, ils n'étaient plus jugés d'après le délabrement de leur fortune et les tristes métiers auxquels ils se livraient pour essayer de le réparer. Ils redevenaient monsieur le prince, monsieur le duc un tel, et n'étaient comptés que d'après leur quartier. Un duc, presque milliardaire et qui semblait tout réunir en soi, passait après eux, parce que, chef de famille, ils étaient anciennement princes souverains d'un petit pays, où ils avaient le droit de battre monnaie, etc. Souvent, dans ce café, l'un baissait les yeux quand un autre entrait, de façon à ne pas forcer l'arrivant à le saluer. C'est qu'il avait, dans sa poursuite imaginative de la richesse, invité à dîner un banquier. Chaque fois qu'un homme entre, dans ces conditions, en rapport avec un banquier, celui-ci lui fait perdre une centaine de mille francs, ce qui n'empêche pas l'homme du monde de recommencer avec un autre. On continue de brûler des cierges et de consulter les médecins. Mais le prince de Foix, riche lui-même, appartenait non seulement à cette coterie élégante d'une quinzaine de jeunes gens, mais à un groupe plus fermé et inséparable de 4, dont faisait partie Saint-Loup. On ne les invitait jamais l'un sans l'autre. On les appelait les 4 gigolos. On les voyait toujours ensemble à la promenade. Dans les châteaux, on leur donnait des chambres communicantes, de sorte que, d'autant plus qu'ils étaient tous très beaux, des bruits couraient sur leur intimité. Je pus les démentir de la façon la plus formelle en ce qui concernait Saint-Loup. Mais ce qui est curieux, c'est que plus tard, si l'on apprit que ces bruits étaient vrais pour tous les 4, en revanche, chacun d'eux l'avait entièrement ignoré des 3 autres. Et pourtant, chacun d'eux avait bien cherché à s'instruire sur les autres, soit pour assouvir un désir, ou plutôt une rancune, empêcher un mariage, avoir barre sur l'ami découvert. Un cinquième, car dans les groupes de quatre, on est toujours plus de quatre, s'était joint aux quatre platoniciens, qui n'étaient plus que tous les autres. Mais des scrupules religieux le retinrent jusque bien après que le groupe des quatre fut désuni et lui-même marié, père de famille, implorant à Lourdes que le prochain enfant fût un garçon ou une fille, et dans l'intervalle, se jetant sur les militaires. Malgré la manière d'être du prince, le fait que le propos fût tenu devant lui sans lui être directement adressé, rendit sa colère moins forte qu'elle n'eût été sans cela. De plus, cette soirée avait quelque chose d'exceptionnel. Enfin, l'avocat n'avait pas plus de chance d'entrer en relation avec le prince de Foix que le cocher qui avait conduit ce noble seigneur. Aussi, ce dernier crut-il pouvoir répondre d'un air rogue et à la cantonade à cet interlocuteur qui, à la faveur du brouillard, était comme un compagnon de voyage, rencontré dans quelque plage située aux confins du monde, battu des vents ou enseveli dans les brumes. Ce n'est pas tout de se perdre, mais c'est qu'on ne se retrouve pas. La justesse de cette pensée frappa le patron, parce qu'il l'avait déjà entendu exprimer plusieurs fois ce soir. En effet, il avait l'habitude de comparer toujours ce qu'il entendait ou lisait à un certain texte déjà connu et sentait s'éveiller son admiration s'il ne voyait pas de différence. Cet état d'esprit n'est pas négligeable, car, appliqué aux conversations politiques, à la lecture des journaux, il forme l'opinion publique et par là rend possible les plus grands événements. Beaucoup de patrons de cafés allemands admirant seulement leurs consommateurs ou leur journal, quand ils disaient que la France, l'Angleterre et la Russie cherchaient l'Allemagne, ont rendu possible, au moment d'Agadir, une guerre qui d'ailleurs n'a pas éclaté. Les historiens, s'ils n'ont pas eu tort de renoncer à expliquer les actes des peuples par la volonté des rois, doivent la remplacer par la psychologie de l'individu médiocre. En politique, le patron du café où je venais d'arriver n'appliquait depuis quelque temps sa mentalité de professeur de récitation qu'à un certain nombre de morceaux sur l'affaire Dreyfus. S'il ne retrouvait pas les termes connus dans les propos d'un client ou les colonnes d'un journal, il déclarait l'article assommant ou le client pas franc. Le prince de Foix l'émerveilla au contraire, au point qu'il laissa à peine à son interlocuteur le temps de finir sa phrase. « Bien dit, mon prince, bien dit !» Ce qui voulait dire en somme « réciter sans faute ».« C'est ça, c'est ça !» s'écria-t-il, dilaté. « Comme s'expriment les mille et une nuits !» À la limite de la satisfaction. Mais le prince avait déjà disparu dans la petite salle. Puis, comme la vie reprend même après les événements les plus singuliers, ceux qui sortaient de la mer de brouillard commandaient les uns leur consommation, les autres leur souper. Et parmi ceux-ci, des jeunes gens du jockey qui, à cause du caractère anormal du jour, n'hésitèrent pas à s'installer à deux tables dans la grande salle et se trouvèrent ainsi fort près de moi. Tel le cataclysme avait établi, même de la petite salle à la grande, entre tous ces gens stimulés par le confort du restaurant, après leurs longues erreurs dans l'océan de brume, une familiarité dont j'étais seule exclue, et à laquelle devait ressembler celle qui régnait dans l'arche de Noé. Tout à coup, je vis le patron s'infléchir en courbette, les maîtres d'hôtel à courir au grand complet, ce qui fit tourner les yeux à tous les clients. « Vite, appelez-moi Cyprien, une table pour monsieur le marquis de Saint-Loup !» s'écriait le patron, pour qui Robert n'était pas seulement un grand seigneur jouissant d'un véritable prestige, même aux yeux du prince de Foix, mais un client qui menait la vie à grande guide et dépensait dans ce restaurant beaucoup d'argent. Les clients de la grande salle regardaient avec curiosité. Ceux de la petite hélaient à qui mieux mieux leur ami qui finissait de s'essuyer les pieds. Mais au moment où il allait pénétrer dans la petite salle, il m'aperçut dans la grande. « Bon Dieu ! Cria-t-il. « Qu'est-ce que tu fais là, et avec la porte ouverte devant toi ? » dit-il, non sans jeter un regard furieux au patron, qui courut la fermer en s'excusant sur les garçons. « Je leur dis toujours de la tenir fermée !» J'avais été obligé de déranger ma table, et d'autres, qui étaient devant la mienne, pour aller à lui. « Pourquoi as-tu bougé ? Tu aimes mieux dîner là que dans la petite salle ? Mais mon pauvre petit, tu vas geler. Vous allez me faire le plaisir de condamner cette porte, » dit-il au patron. « À l'instant même, monsieur le marquis, les clients qui viendront à partir de maintenant passeront par la petite salle. Voilà tout. » Et pour mieux montrer son zèle, il commanda pour cette opération un maître d'hôtel et plusieurs garçons, et tout en faisant sonner très haut de terribles menaces si elles n'étaient pas menées à bien. Il me donnait des marques de respect excessives pour que j'oubliasse qu'elle n'avait pas commencé dès mon arrivée, mais seulement après celle de Saint-Loup, et pour que je ne crusse pas cependant qu'elles étaient dues à l'amitié que me montrait son riche et aristocratique client. Il m'adressait à la dérobée de petits sourires où semblait se déclarer une sympathie toute personnelle. Derrière moi, le propos d'un consommateur me fit tourner une seconde la tête. J'avais entendu, au lieu des mots « aile de poulet, très bien, un peu de champagne, mais pas trop sec », ceci « j'aimerais mieux de la glycérine, oui, chaude, très bien ». J'avais voulu voir quelle était l'assiette qui s'infligeait d'un tel menu. Je retournai vivement la tête vers Saint-Loup pour ne pas être reconnu de l'étrange gourmet. C'était tout simplement un docteur que je connaissais, à qui un client, profitant du brouillard pour le chambrer dans ce café, demandait une consultation. Les médecins, comme les boursiers, disent « je ». Cependant, je regardais Robert et je songeais à ceci. Il y avait dans ce café, j'avais connu dans la vie, bien des étrangers, intellectuels, rapins de toutes sortes, résignés au rire, qu'excitaient leurs capes prétentieuses, leurs cravates 1830, et bien plus encore leurs mouvements maladroits, allant jusqu'à le provoquer pour montrer qu'ils ne s'en souciaient pas, et qui étaient des gens d'une réelle valeur intellectuelle et morale, d'une profonde sensibilité. Ils déplaisaient, les Juifs principalement, les Juifs non assimilés, bien entendu. Il ne saurait être question des autres. Aux personnes qui ne peuvent souffrir un aspect étrange, loufoque, comme Bloch à Albertine. Généralement, on reconnaissait ensuite que s'ils avaient contre eux d'avoir les cheveux trop longs, les yeux et le nez trop grands, des gestes théâtraux et saccadés, il était puéril de les juger là-dessus. Ils avaient beaucoup d'esprit, de cœur, et étaient, à l'user, des gens qu'on pouvait profondément aimer. Pour les Juifs, en particulier, il en était peu dont les parents n'eussent une générosité de cœur, une largeur d'esprit, une sincérité, à côté desquels la mère de Saint-Loup et le duc de Guermantes ne fissent piètre figure morale par leur sécheresse, leur religiosité superficielle qui ne flétrissait que des scandales, et leur apologie d'un christianisme aboutissant infailliblement par les voies imprévues de l'intelligence uniquement prisée, à un colossal mariage d'argent. Mais enfin, chez Saint-Loup, de quelque façon que les défauts des parents se fussent combinés en une création nouvelle de qualité, régnait la plus charmante ouverture d'esprit et de cœur. Et alors, il faut bien le dire à la gloire immortelle de la France, quand ces qualités-là se trouvent chez un pur Français, qu'il soit de l'aristocratie ou du peuple, elles fleurissent. S'épanouissent serait trop dire, car la mesure y persiste et la restriction. Avec une grâce que l'étranger, si estimable soit-il, ne nous offre pas. Les qualités intellectuelles et morales, certes, les autres les possèdent aussi. Et s'il faut d'abord traverser ce qui déplaît et ce qui choque et ce qui fait sourire, elles ne sont pas moins précieuses. Mais c'est tout de même une jolie chose, et qui est peut-être exclusivement française, que ce qui est beau au jugement de l'équité, ce qui vaut selon l'esprit et le cœur, soit d'abord charmant aux yeux, coloré avec grâce, ciselé avec justesse, réalise aussi dans sa manière et dans sa forme la perfection intérieure. Je regardais Saint-Loup, et je me disais que c'est une jolie chose, quand il n'y a pas de disgrâce physique pour servir de vestibule aux grâces intérieures, et que les ailes du nez soient délicates et d'un dessin parfait comme celles des petits papillons qui se posent sur les fleurs des prairies autour de Combray, et que le véritable opus franciguenum, dont le secret n'a pas été perdu depuis le XIIIe siècle et qui ne périrait pas avec nos églises, ce ne sont pas tant les anges de pierre de Saint-André-des-Champs que les petits Français, nobles, bourgeois ou paysans, au visage sculpté avec cette délicatesse et cette franchise restée aussi traditionnelle qu'au porche fameux, mais encore créatrice. Après être parti un instant pour veiller lui-même à la fermeture de la porte et à la commande du dîner, il insista beaucoup pour que nous prissions de la viande de boucherie, les volailles n'étant sans doute pas fameuses. Le patron revint nous dire que le prince de Foix aurait bien voulu que monsieur le marquis lui permît de venir dîner à une table près de lui. « Mais elles sont toutes prises !» répondit Robert en voyant les tables qui bloquaient la mienne. « Pour cela, cela ne fait rien. Si ça pouvait être agréable à monsieur le marquis, il me serait bien facile de prier ces personnes de changer de place. Ce sont des choses qu'on peut faire pour monsieur le marquis. » « Mais c'est à toi de décider, » me dit Saint-Loup. « Foix est un bon garçon. Je ne sais pas s'il t'ennuiera. Il est moins bête que beaucoup. » Je répondis à Robert qu'il me plairait certainement, mais que, pour une fois où je dînais avec lui et où je m'en sentais si heureux, j'aurais autant aimé que nous fussions seuls. « Ah ! Il a un manteau bien joli, monsieur le prince !» dit le patron pendant notre délibération. « Oui, je le connais, » répondit Saint-Loup. Je voulais raconter à Robert que monsieur de Charlus avait dissimulé à sa belle-sœur qu'il me connut et lui demandait quelle pouvait en être la raison. Mais j'en fus empêché par l'arrivée de monsieur de Foix. Venant pour voir si sa requête était accueillie, nous l'aperçûmes qui se tenait à deux pas. Robert nous présenta, mais ne cacha pas à son ami qu'ayant à causer avec moi, il préférait qu'on nous laissât tranquilles. Le prince s'éloigna, en ajoutant au salut d'adieu qu'il me fit, un sourire qui montrait Saint-Loup et semblait s'excuser sur la volonté de celui-ci de la brièveté d'une présentation qu'il eût souhaité plus longue. Mais à ce moment, Robert, semblant frappé d'une idée subite, s'éloigna avec son camarade après m'avoir dit « Assieds-toi toujours et commence à dîner, j'arrive !» Et il disparut dans la petite salle. Je fus peiné d'entendre les jeunes gens chics, que je ne connaissais pas, raconter les histoires les plus ridicules et les plus malveillantes sur le jeune grand-duc héritier de Luxembourg, ex-comte de Nassau, que j'avais connu à Balbec, et qui m'avait donné des preuves si délicates de sympathie pendant la maladie de ma grand-mère. L'un prétendait qu'il avait dit à la duchesse de Guermantes « J'exige que tout le monde se lève quand ma femme passe », et que la duchesse avait répondu, ce qui eût été non seulement dénué d'esprit mais d'exactitude, la grand-mère de la jeune princesse ayant toujours été la plus honnête femme du monde, « Il faut qu'on se lève quand passe ta femme », Cela changera de sa grand-mère, car pour elle, les hommes se couchaient. » Puis on raconta qu'étant allé voir cette année sa tante, la princesse de Luxembourg, à Balbec, et étant descendu au grand hôtel, il s'était plaint au directeur, mon ami, qu'il n'eût pas hissé le fanion de Luxembourg au-dessus de la digue. Or, ce fanion étant moins connu et de moins d'usage que les drapeaux d'Angleterre ou d'Italie, il avait fallu plusieurs jours pour se le procurer, au vif mécontentement du jeune grand-duc. Je ne crus pas un mot de cette histoire, mais me promis, dès que j'irais à Balbec, d'interroger le directeur de l'hôtel, de façon à m'assurer qu'elle était une invention pure. En attendant Saint-Loup, je demandai au patron du restaurant de me faire donner du pain. « Tout de suite, monsieur le baron. »«
Je ne suis pas baron, » lui répondis-je.
« Oh, pardon, mon monsieur le comte. »
Je n'eus pas le temps de faire entendre une seconde protestation, après laquelle je fus sûrement devenu monsieur le marquis.
Aussi vite qu'il l'avait annoncé, Saint-Loup réapparut dans l'entrée, tenant à la main le grand manteau de vigogne du prince, à qui je compris qu'il l'avait demandé pour me tenir chaud. Il me fit signe de loin de ne pas me déranger. Il avança. Il aurait fallu qu'on bougeât encore ma table ou que je changeasse de place pour qu'il puisse s'asseoir. Dès qu'il entra dans la grande salle, il monta légèrement sur les banquettes de velours rouge qui en faisaient le tour en longeant le mur et où, en dehors de moi, n'étaient assis que trois ou quatre jeunes gens du jockey. Connaissance à lui qui n'avait pu trouver place dans la petite salle. Entre les tables, des fils électriques étaient tendus à une certaine hauteur. Sans s'y embarrasser, Saint-Loup les sauta adroitement comme un cheval de course un obstacle. Confus qu'elle s'exerça uniquement pour moi et dans le but de m'éviter un mouvement bien simple, j'étais en même temps émerveillé de cette sûreté avec laquelle mon ami accomplissait cet exercice de voltige, et je n'étais pas le seul, car encore qu'il l'eût sans doute médiocrement goûté de la part d'un moins aristocratique et moins généreux client, le patron et les garçons restaient fascinés, comme des connaisseurs au pesage. Un commis, comme paralysé, restait immobile avec un plat que des dîneurs attendaient à côté. Et quand Saint-Loup, ayant à passer derrière ses amis, grimpa sur le rebord du dossier et s'y avança en équilibre, des applaudissements discrets éclatèrent dans le fond de la salle. Enfin, arrivé à ma hauteur, il arrêta net son élan, avec la précision d'un chef devant la tribune d'un souverain, et s'inclinant, me tendit avec un air de courtoisie et de soumission le manteau de vigogne, qu'aussitôt après, s'étant assis à côté de moi, sans que j'eusse eu un mouvement à faire, il arrangea, en châle léger et chaud, sur mes épaules. « Dis-moi, pendant que j'y pense, me dit Robert, mon oncle Charlus a quelque chose à te dire. Je lui ai promis que je t'enverrai chez lui demain soir. » « Justement, j'allais te parler de lui, mais demain soir je dîne chez ta tante Guermantes. »
Oui, il y a un gueuleton à tout casser demain chez Oriane. Je ne suis pas conviée, mais mon oncle Palamède voudrait que tu n'y ailles pas. Tu ne peux pas te décommander?
En tout cas, va chez mon oncle Palamède après. Je crois qu'il tient à te voir.
Voyons, tu peux bien y être vers 11 heures.
11 heures, n'oublie pas. Je me charge de le prévenir.
Il est très susceptible. Si tu n'y vas pas, il t'en voudra.
Et cela finit toujours de bonne heure chez Oriane.
Si tu ne fais qu'y dîner, tu peux très bien être à 11 heures chez mon oncle.
Du reste, moi, il aurait fallu que je visse Oriane pour mon poste au Maroc que je voudrais changer. Elle est si gentille pour ces choses-là, et elle peut tout sur le général de Saint-Joseph, de qui ça dépend.
Mais ne lui en parle pas.
J'ai dit un mot à la princesse de Parme, ça marchera tout seul.
Ah, le Maroc, très intéressant.
Il y aurait beaucoup à te parler.
Homme très fin là-bas. On sent la parité d'intelligence.
Tu ne crois pas que les Allemands puissent aller jusqu'à la guerre à propos de cela?
Non, cela les ennuie, et au fond c'est très juste. Mais l'empereur est pacifique. Ils nous font toujours croire qu'ils veulent la guerre pour nous forcer à céder.
Le prince de Monaco, agent de Guillaume II, vient nous dire en confidence que l'Allemagne se jette sur nous si nous ne cédons pas.
Alors, nous cédons.
Mais si nous ne cédions pas, il n'y aurait aucune espèce de guerre.
Tu n'as qu'à penser quelle chose comique serait une guerre aujourd'hui.
Ce serait plus catastrophique que le déluge et le Götterdämmerung.
Seulement, cela durerait moins longtemps.
Il me parla d'amitié, de prédilection, de regret, bien que, comme tous les voyageurs de sa sorte, il alla repartir le lendemain pour quelques mois qu'il devait passer à la campagne et dut revenir seulement 48 heures à Paris avant de retourner au Maroc ou ailleurs. Mais les mots qu'il jeta ainsi dans la chaleur de cœur que j'avais ce soir-là y allumaient une douce rêverie. Nos rares tête-à-tête, et celui-là surtout, ont fait depuis époque dans ma mémoire. Pour lui, comme pour moi, ce fut le soir de l'amitié. Pourtant, celle que je ressentais en ce moment, et à cause de cela, non sans quelques remords, n'était guère, je le craignais, celle qui lui eût plus d'inspirer. Tout rempli encore du plaisir que j'avais eu à le voir s'avancer au petit galop et toucher gracieusement au but, je sentais que ce plaisir tenait à ce que chacun des mouvements développés le long du mur, sur la banquette, avait sa signification, sa cause, dans la nature individuelle de Saint-Loup peut-être, mais plus encore dans celle que par la naissance et par l'éducation il avait hérité de sa race. Une certitude du goût dans l'ordre, non du beau mais des manières, et qui, en présence d'une circonstance nouvelle, faisait saisir tout de suite à l'homme élégant, comme à un musicien à qui on demande de jouer un morceau inconnu, le sentiment, le mouvement qu'elle réclame, et y adapter le mécanisme, la technique qui convienne le mieux. Puis, permettait à ce goût de s'exercer sans la contrainte d'aucune autre considération, dont tant de jeunes bourgeois eussent été paralysés, aussi bien par peur d'être ridicule aux yeux des autres en manquant aux convenances que de paraître trop empressé à ceux de leurs amis, et que remplaçait chez Robert un dédain que certes il n'avait jamais éprouvé dans son cœur, mais qu'il avait reçu par héritage en son corps et qui avait plié les façons de ses ancêtres à une familiarité qu'il croyait ne pouvoir que flatter et ravir celui à qui elle s'adressait. Enfin, une noble libéralité qui, ne tenant aucun compte de tant d'avantages matériels, des dépenses à profusion dans ce restaurant avaient achevé de faire de lui, ici comme ailleurs, le client le plus à la mode et le grand favori. Situation que soulignait l'empressement envers lui, non pas seulement de la domesticité, mais de toute la jeunesse la plus brillante. Les lui faisaient fouler aux pieds, comme ces banquettes de pourpre, effectivement et symboliquement trépignées, pareilles à un chemin somptueux qui ne plaisait à mon ami qu'en lui permettant de venir vers moi avec plus de grâce et de rapidité. Telles étaient les qualités, toutes essentielles à l'aristocratie, qui derrière ce corps, non pas opaque et obscur comme eût été le mien, mais significatif et limpide, transparaissait comme à travers une œuvre d'art la puissance industrieuse, efficiente qu'il a créée, et rendait les mouvements de cette course légère que Robert avait déroulée le long du mur, intelligibles et charmants, ainsi que ceux de cavaliers sculptés sur une frise.
Hélas, eut pensé Robert, est-ce la peine que j'ai passé ma jeunesse à mépriser la naissance, à honorer seulement la justice et l'esprit, à choisir, en dehors des amis qui m'étaient imposés, des compagnons gauches et mal vêtus s'ils avaient de l'éloquence, pour que le seul être qui apparaisse en moi, dont on garde un précieux souvenir,
soit non celui que ma volonté, en s'efforçant et en méritant, a modelé à ma ressemblance, mais un être qui n'est pas mon œuvre, qui n'est même pas moi, que j'ai toujours méprisé et cherché à vaincre. Est-ce la peine que j'ai aimé mon ami préféré comme je l'ai fait, pour que le plus grand plaisir qu'il trouve en moi soit celui d'y découvrir quelque chose de bien plus général que moi-même, un plaisir qui n'est pas du tout, comme il le dit et comme il ne peut sincèrement le croire, un plaisir d'amitié, mais un plaisir intellectuel et désintéressé, une sorte de plaisir d'art. Voilà ce que je crains, aujourd'hui, que Saint-Loup ait quelquefois pensé. Il s'est trompé dans ce cas. S'il n'avait pas, comme il avait fait, aimé quelque chose de plus élevé que la souplesse innée de son corps, s'il n'avait pas été si longtemps détaché de l'orgueil nobiliaire, il y eût eu plus d'application et de lourdeur dans son agilité même, une vulgarité importante dans ses manières. Comme à Madame de Villeparisis, il avait fallu beaucoup de sérieux pour qu'elle donnât dans sa conversation et dans ses mémoires le sentiment de la frivolité, lequel est intellectuel. De même, pour que le corps de Saint-Loup fût habité par tant d'aristocratie, il fallait que celle-ci eût déserté sa pensée, tendue vers de plus hauts objets, et, résorbée dans son corps, s'y fût fixée en lignes inconscientes et nobles. Par là, sa distinction d'esprit n'était pas absente d'une distinction physique, qui, la première faisant défaut, n'eût pas été complète. Un artiste n'a pas besoin d'exprimer directement sa pensée dans son ouvrage pour que celui-ci en reflète la qualité. On a même pu dire que la louange la plus haute de Dieu est dans la négation de l'athée qui trouve la création assez parfaite pour se passer d'un créateur. Et je savais bien aussi que ce n'était pas qu'une œuvre d'art que j'admirais en ce jeune cavalier, déroulant le long du mur la frise de sa course. Le jeune prince, descendant de Catherine de Foix, reine de Navarre et petite-fille de Charles VII, qu'il venait de quitter à mon profit, la situation de naissance et de fortune qui l'inclinait devant moi, les ancêtres dédaigneux et souples qui survivaient dans l'assurance et l'agilité, la courtoisie avec laquelle il venait disposer autour de mon corps frileux le manteau de Vigogne, tout cela n'était-ce pas comme des amis plus anciens que moi dans sa vie, par lesquels j'eusse cru que nous dussions toujours être séparés, et qu'il me sacrifiait au contraire par un choix que l'on ne peut faire que dans les hauteurs de l'intelligence, avec cette liberté souveraine dont les mouvements de Robert étaient l'image, et dans laquelle se réalise la parfaite amitié. Ce que la familiarité d'un Guermantes, au lieu de la distinction qu'elle avait chez Robert, parce que le dédain héréditaire n'y était que le vêtement, devenu, grâce inconsciente, d'une réelle humilité morale, eût décelé de morgue vulgaire, j'avais pu en prendre conscience, non en M. de Charlus, chez lequel les défauts de caractère que jusqu'ici je comprenais mal s'étaient superposés aux habitudes aristocratiques, mais chez le duc de Guermantes. Lui aussi, pourtant, dans l'ensemble commun qui avait tant déplu à ma grand-mère quand autrefois elle l'avait rencontré chez Madame de Villeparisis, offrait des parties de grandeur ancienne et qui me furent sensibles quand j'allais dîner chez lui, le lendemain de la soirée que j'avais passée avec Saint-Loup. Elle ne m'était apparue ni chez lui ni chez la duchesse, quand je les avais vus d'abord chez leur tante, pas plus que je n'avais vu le premier jour les différences qui séparaient la Berma de ses camarades. Encore que chez celle-ci, les particularités fussent infiniment plus saisissantes que chez les gens du monde, puisqu'elles deviennent plus marquées au fur et à mesure que les objets sont plus réels, plus concevables à l'intelligence. Mais enfin, si légères que soient les nuances sociales, et au point que lorsqu'un peintre véridique comme Sainte-Beuve veut marquer successivement les nuances qu'il y eut entre le salon de Madame Geoffrin, de Madame Récamier et de Madame de Boigne,
Ils apparaissent tous si semblables que la principale vérité qui, à l'insu de l'auteur, ressort de ses études, c'est le néant de la vie de salon. Pourtant, en vertu de la même raison que pour la Berma, quand les guermantes me furent devenues indifférents et que la gouttelette de leur originalité ne fut plus vaporisée par mon imagination, je pus la recueillir, tout impondérable qu'elle fût. La duchesse ne m'ayant pas parlé de son mari, à la soirée de sa tante, je me demandais si, avec les bruits de divorce qui couraient, il assisterait au dîner. Mais je fus bien vite fixée, car parmi les valets de pied qui se tenaient debout dans l'antichambre, et qui, puisqu'ils avaient dû jusqu'ici me considérer à peu près comme les enfants de l'ébéniste, c'est-à-dire peut-être avec plus de sympathie que leur maître, mais comme incapable d'être reçu chez lui, devait chercher la cause de cette révolution, je vis se glisser M. de Guermantes, qui guettait mon arrivée pour me recevoir sur le seuil et m'ôter lui-même mon pardessus. « Madame de Guermantes va être tout ce qu'il y a de plus heureuse !» me dit-il d'un ton habilement persuasif. « Permettez-moi de vous débarrasser de vos frusques !» Il trouvait à la fois bon enfant et comique de parler le langage du peuple. « Ma femme craignait un peu une défection de votre part, bien que vous eussiez donné votre jour. Depuis ce matin, nous nous disions l'un à l'autre, « Vous verrez qu'il ne viendra pas !» Je dois dire que Madame de Guermantes a vu plus juste que moi. Vous n'êtes pas un homme commode à avoir, et j'étais persuadée que vous nous feriez faux bon. » Et le duc était si mauvais mari, si brutal même, disait-on, qu'on lui savait gré, comme on sait gré de leur douceur aux méchants, de ces mots « Madame de Guermantes », avec lesquels il avait l'air d'étendre sur la duchesse une aile protectrice pour qu'elle ne fasse qu'un avec lui. Cependant, me saisissant familièrement par la main, il se mit en devoir de me guider et de m'introduire dans les salons. Telle expression courante peu claire dans la bouche d'un paysan, si elle montre la survivance d'une tradition locale, la trace d'un événement historique, peut être ignorée de celui qui y fait allusion. De même, cette politesse de M. de Guermantes, et qu'il allait me témoigner pendant toute la soirée, me charma, comme un reste d'habitude plusieurs fois séculaire, d'habitude en particulier du XVIIIe siècle. Les gens des temps passés nous semblent infiniment loin de nous. Nous n'osons pas leur supposer d'intentions profondes au-delà de ce qu'ils expriment formellement. Nous sommes étonnés quand nous rencontrons un sentiment à peu près pareil à ceux que nous éprouvons chez un héros d'Homère ou une habile feinte tactique chez Hannibal pendant la bataille de Cannes, où il laissa enfoncer son flanc pour envelopper son adversaire par surprise. On dirait que nous nous imaginons ce poète épique et ce général aussi éloigné de nous qu'un animal vu dans un jardin zoologique. Même chez tel personnage de la cour de Louis XIV, quand nous trouvons des marques de courtoisie dans des lettres écrites par eux à quelque homme de rang inférieur et qui ne peut leur être utile à rien, elles nous laissent surpris parce qu'elles nous révèlent tout à coup, chez ces grands seigneurs, tout un monde de croyances qu'ils n'expriment jamais directement, mais qui les gouvernent. Et en particulier la croyance qu'il faut, par politesse, feindre certains sentiments et exercer avec le plus grand scrupule certaines fonctions d'amabilité. Cet éloignement imaginaire du passé est peut-être une des raisons qui permettent de comprendre que même de grands écrivains aient trouvé une beauté géniale aux œuvres de médiocres mystificateurs comme Ossian. Nous sommes si étonnés que des bardes lointains puissent avoir des idées modernes que nous nous émerveillons si, dans ce que nous croyons un vieux chant gaélique, nous en rencontrons une que nous n'eussions trouvée qu'ingénieuse chez un contemporain. Un traducteur de talent n'a qu'à ajouter à un ancien, qu'il restitue plus ou moins fidèlement, des morceaux
qui, signés d'un nom contemporain et publiés à part, paraîtraient seulement agréables. Aussitôt, il donne une émouvante grandeur à son poète, lequel joue ainsi sur le clavier de plusieurs siècles. Ce traducteur n'était capable que d'un livre médiocre, si ce livre eût été publié comme un original de lui. Donné pour une traduction, il semble celle d'un chef-d'œuvre. Le passé non seulement n'est pas fugace, il reste sur place. Ce n'est pas seulement des mois après le commencement d'une guerre que des lois votées sans hâte peuvent agir efficacement sur elle. Ce n'est pas seulement 15 ans après un crime resté obscur qu'un magistrat peut encore trouver les éléments qui serviront à l'éclaircir. Après des siècles et des siècles, le savant qui étudie dans une région lointaine la toponymie, les coutumes des habitants, pourra saisir encore en elle telle légende bien antérieure au christianisme, déjà incomprise, sinon même oubliée au temps d'Hérodote, et qui, dans l'appellation donnée à une roche, dans un rite religieux, demeure au milieu du présent comme une émanation plus dense, immémoriale et stable. Il y en avait une aussi, bien moins antique, émanation de la vie de cour, sinon dans les manières souvent vulgaires de monsieur de Guermantes, du moins dans l'esprit qui les dirigeait. Je devais la goûter encore, comme une odeur ancienne, quand je la retrouvais un peu plus tard au salon, car je n'y étais pas allée tout de suite.